Le MAG de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h en direct sur Radio IMO.
Bonjour, bon réveil à tous, bienvenue sur Radio IMO. Bonjour Bérénice, comment allez-vous?
Bonjour Nicolas, ça va très bien pour cette pré-rentrée du MAG de l'IMO.
Pré-rentrée du MAG de l'IMO, c'était la rentrée d'ailleurs des classes hier pour les élèves, pour les étudiants.
Oui.
On a découvert un petit peu, vous avez découvert vos enfants, ont peut-être découvert aussi leur classe, leurs copains pour savoir s'ils sont contents ou un petit peu moins contents. Mais en tout cas, on espère que ça s'est bien passé cette rentrée hier.
Et oui, 12,4 millions d'élèves ont repris le chemin des classes. Moi, j'ai vu plein de photos sur les réseaux des papas, mamans qui mettaient les petits cartables, qui couraient sur le trottoir. Donc voilà, en tout cas, on a 2 heures d'infos et de découvertes bien chargées. À 8h, on réécoutera un invité qu'on a eu au mois d'avril dernier.
Pierre Autus, DG de l'UNPI, l'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers. Donc Pierre Autus, l'invité du MAG qu'on retrouvera à partir de 8h. Et mais tout de suite au programme, c'est les chroniques actus avec vous, Bérénice.
Évidemment, et plein d'interviews très, très inspirante, très intéressante, puisqu'on était à la rentrée du MEDEF et justement, on a eu plein de personnes, donc on se retrouve dans quelques instants.
Le MAG de l'IMO, en partenariat avec Opinion Système, promis et bien ici.
Et on parlait de la REF, là, 2021, la rentrée du MEDEF, on y était.
On y était, c'était la semaine dernière, on y a pris beaucoup de plaisir, on va le dire,
c'est
tout
vrai.
De suite. C'était important aussi de tous se revoir, se retrouver, ça faisait du bien surtout. Et puis il y avait des sujets brûlants aussi dans cette rentrée politique, rentrée économique, rentrée entrepreneuriale. Donc c'était vraiment très intéressant, vous pouvez retrouver ça d'ailleurs sur radioibo.fr, avec des sujets ultra intéressants, ultra pertinents, surtout bien dans l'actualité, et notamment celui-ci, Bérénice.
Eh bien oui, Malakoff Humanist a présenté justement durant la REF 2021 son indice de performance sociale. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un outil en fait qui permet de mesurer l'implication des entreprises en matière de protection et de développement du capital humain et d'étayer le lien qui existe entre leur performance sociale et évidemment leur performance économique. Un sujet qui résonne forcément avec la démocratisation et les questionnements autour du télétravail. Puis, il y en a beaucoup justement des questions autour du télétravail. On va écouter tout de suite Olivier Rutard, le directeur des ressources humaines du groupe Malakoff Humanist.
La crise de 2020 a fait apparaître en tout cas des angoisses par rapport à ce qui arrivait, ça c'est sûr. Des résiliences, des agilités incroyables. On est passé d'un monde anxieux à un monde, on va dire, de transition. On sait une chose, c'est que les modèles anciens, on veut les voir partir dans ce qu'ils étaient le plus rétro, et on veut les voir atterrir dans des modes qui tiennent aux promesses de bien-être. Je m'explique. La relation entre les gens, elle doit être intelligente, elle doit être intéressante, elle doit être en confiance. Le contrôle, par principe, c'est une modalité qui doit être remise aux oubliettes, sous réserve qu'on ait des points d'échange en transparence. Si je dois résumer les choses, on doit se garantir un collectif commun. Ça, c'est ce qu'on doit faire pour le demain. Aujourd'hui, on doit abandonner le mode de contrôle systématique. On doit plutôt travailler sur la confiance. Aujourd'hui, on doit se poser la question des bénéfices réciproques. Si moi, je suis en télétravail, toi, entreprise, qu'est-ce qu'il nous propose en alternative en bénéfice d'indemnisation? Si demain on se dit que le management de proximité a réussi pendant cette crise à être bien présent et que le top management a réussi à bien mettre en confiance les salariés, que advient-il du middle management? Voilà. Donc les questions qu'on doit explorer, on doit les explorer aujourd'hui ensemble. Il n'y a pas d'opposition, il y a simplement un cheminement qu'on doit assumer ensemble. Et la question que vous posiez qui était de savoir si on a des choses à ne plus voir venir, oui. On ne veut plus être déresponsabilisé, on veut être responsabilisé, autonome, et avoir l'accompagnement qui va bien. La question du télétravail, c'est de pouvoir une relation avec son employeur, de quel soit l'endroit que l'on choisit. Ça, c'est un premier état. D'ailleurs, l'avenant à l'accord télétravail qu'on a signé récemment, permet de télétravailler dans n'importe quel endroit en France, pour deux raisons. La première, c'est d'avoir la législation sur les accidents de travail qui s'applique. Pourquoi la France?
D'accord.
La deuxième, c'est d'être en capacité de se déplacer s'il y a besoin pour rejoindre le collectif. Voilà, maintenant, avec ces deux conditions, tout est ouvert.
Alors,
notre sujet à nous, puisque la question, c'était de se dire...
Coworking, tiers-lieu,
c'est ça,
maison...
Ça peut être ça, mais il faut en parler. C'est-à-dire que quelque part, il faut qu'on en parle ensemble pour pouvoir, si les conditions sont réunies, pour bien travailler. Vous disiez tout à l'heure, il y avait peut-être des réflexions sur des gens qui changeraient d'endroit parce qu'un espace... Rappelons quand même les conditions de 2020. On était obligé de rester chez soi 5 jours sur 5 pour tout. Donc forcément, lorsque vous avez cette intensité, le ras-le-bol peut venir et les risques psychosociaux peuvent émerger. Ça, c'est sûr. Et ça, c'est un des angles morts.
Et ça a été le cas.
Absolument. Et d'ailleurs, l'étude qu'on publiera d'ici une quinzaine de jours ou un peu plus sur la RPS va révéler tout ça. Donc il y a, pour le télétravail, cette démarche d'attention des managers et de l'ensemble du corps social à l'égard des plus fragiles, des plus vulnérables, ce qu'on peut être tous dans la vie. On n'a pas tous les mêmes vallées, mêmes monts de vie. On a le droit, à ce moment-là, d'avoir le soutien de l'entreprise, et même le devoir d'être aidé et accompagné. Donc c'est ça le bien-être, et c'est ça la logique d'honneur d'une entreprise, c'est d'avoir sa capacité à accompagner toutes les linéarités professionnelles, qu'elles soient hautes ou basses, mais qui conviennent à un équilibre global pour le salarié dans son entreprise.
Le Mac de l'Immo, en partenariat avec Opinion Système, promis et bien ici.
La ministre du Logement, qu'on a vu d'ailleurs, Bérénice, à la REF, qu'on a pu interviewer. On a eu la chance de l'avoir. On est ravis, on est très honorés de l'avoir eu sur notre plateau de la REF. Vous pouvez d'ailleurs retrouver son podcast sur notre site internet. En tout cas, la ministre du Logement, Emmanuel Wargon, attaque la rentrée sur les chapeaux de roue, on peut le dire. 6 semaines de rencontres et déplacements sur l'habitat de demain avec un objectif, Bérénice, présenter 10 propositions concrètes en octobre. C'est ce que va nous raconter Kenza Braiga.
La ministre du Logement attaque la rentrée sur les chapeaux de roue avec son grand débat sur l'habitat de demain, qui débute cette semaine avec l'objectif de présenter 10 propositions concrètes en octobre. De l'écologie à la santé, en passant par la mixité sociale, l'égalité des territoires, la répartition du patrimoine et la fiscalité, l'habitat de demain est un vaste et transverse sujet, une thématique incontournable et éminemment politique, de la transition énergétique à de la relance économique. Le lancement d'un grand débat sur l'habitat de demain devrait aboutir à 10 propositions concrètes qui seront annoncées cette semaine par la ministre déléguée au logement. À partir du 30 août, démarreront donc 6 semaines de tables rondes qui rassembleront professionnels de l'immobilier résidentiel, chercheurs, urbanistes, élus et personnalités publiques. Ces travaux débuteront avec le thème de l'exode urbain, la sortie des villes, mythe ou réalité, et 6 déplacements de la ministre sont prévus à l'agenda pour mettre en lumière des initiatives locales qui pourraient à l'avenir être dupliquées. Les autres sujets porteront sur le bien vivre dans son logement, la rénovation pour les logements de qualité, mais également l'articulation entre habitat, lieu de travail et transport. La mixité sociale sera également engagée, l'aménagement durable avec une réflexion spécifique sur les jeunes qui sont probablement les premières victimes de la pénurie de logements.
Le Mac de l'Immo revient avec Opinion Système, promis et bien ici.
Bonjour, c'est Philippe Boyer. Retrouvez-moi chaque mois dans Complètement à l'Ouest. Économie, art, sciences, gastronomie. Des invités prestigieux analysent le monde qui nous entoure et décryptent notre société. Bref, ils nous parlent de tout, sauf d'immobilier. Rendez-vous mardi à 19h sur Radio Immo. Alors, prêt à mettre le cap à l'Ouest ?
Depuis plus de 40 ans, GERCOP est la référence au service des professionnels de l'immobilier avec l'ensemble de ses solutions logicielles et digitales. Axant sa priorité sur l'ergonomie des interfaces, la performance des logiciels, la qualité des services et la fidélité dans la relation client, GERCOP offre une gamme de produits complète pour vous apporter des solutions dans le développement de votre activité. Gérance, copropriété, transaction ou bien encore état des lieux, pour chaque composante de votre métier, GERCOP vous propose des logiciels et des applications mobiles. Nous pouvons également vous accompagner dans la création et le référencement de votre site web. Retrouvez toutes nos compétences sur notre site gercop.com. GERCOP.com.
Le Mac de l'Immo continue en partenariat avec Opinion Système, promis et bien ici.
On l'a dit, Bérénice, c'était la rentrée hier, la rentrée des élèves, la rentrée des étudiants aussi.
Et oui, la rentrée, ça coûte cher parce que voilà, il y a plein de choses à acheter, il y a plein de choses à voir justement.
Le loyer, l'alimentation, il y a toute une liste. Ça coûte cher, c'est vrai, d'étudier, ça coûte cher en plus, différemment selon les villes. On va le voir un peu plus tard, ça, dans ce Mac de l'Immo. Mais selon la vice-présidente en charge des affaires sociales à la FAGE, Agnella Lamoire, s'est exprimée sur le rapport annuel publié par la FAGE le 16 août dernier. La FAGE, c'est quoi ? C'est la Fédération des Association Générale Étudiante. Elle estime ce coût à 2 392 € pour les étudiants. C'est une augmentation de 1,32% par rapport à l'an passé. On l'écoute tout de suite.
Agnella Lamnaouar, bonjour. Vous êtes vice-présidente en charge des affaires sociales à la FAGE.
Tout à
Tout à fait, bonjour.
Alors la FAGE, c'est la Fédération des associations générales étudiantes et vous avez publié le 16 août dernier votre rapport sur le coût de la rentrée étudiante 2021, un indicateur annuel que vous publiez depuis 2002. Alors, cette rentrée a encore augmenté en 2021, le coût de la rentrée a encore augmenté pour les étudiants.
Tout à fait, on est sur un coût de 2 392 € pour notre 10e année. Alors le coût de la rentrée se base sur deux axes qui permettent à la fois de montrer les frais de rentrée. Donc là, on est pareil, à plus de 1 163 €. Les frais de rentrée, c'est tout ce qui va être frais d'inscription, contribution des étudiants ou encore complémentaire santé. Donc tout ce qui va réellement être déboursé aux alentours du mois de septembre. Et on a un deuxième axe qui se base sur les frais de la vie courante, c'est-à-dire combien va coûter une année universitaire. Et là, on retrouve des postes de dépenses assez forts comme par exemple les transports, les consommables ou encore les loyers qui représentent aujourd'hui encore 50% des dépenses.
Oui, un loyer extrêmement cher, hein, encore plus cher dans certaines zones comme par exemple en Ile-de-France puisqu'il s'élève à 674 € pour un étudiant alors qu'en région c'est 500 €. Il y a aussi des frais supplémentaires cette année, des augmentations dues à l'inflation, mais aussi par exemple le coût des masques qui vient se rajouter.
Tout à fait. Malheureusement, on n'est pas encore sorti de la crise sanitaire et donc on a ces postes de dépenses-là qui sont encore présents et qui s'ajoutent à la facture qui est déjà de base conséquence au niveau des étudiants et pour qu'ils puissent réaliser correctement leur cursus universitaire. Et on a forcément du coup des postes qui vont se calquer sur la crise économique et l'inflation qui vont augmenter comme les consommables ou encore les loisirs.
Alors, il y a quand même une précarité étudiante que vous essayez de mettre en lumière, sachant que 3/4 des 18-25 ans déclarent avoir rencontré des difficultés financières au cours de l'année dernière. Donc, c'est pas que dû à la crise sanitaire. Qu'est-ce que vous espérez en fait à l'approche des présidentielles?
Tout à fait. C'est toute la problématique et tout ce qu'on s'attelle à vouloir montrer, c'est que la précarité n'est pas née avec la crise sanitaire, la crise de la Covid. Ça fait des années qu'on publie un coût de la rentrée, 19 ans exactement, et ça fait des années qu'on alerte sur l'urgence d'agir pour nos étudiants. Actuellement, on en est à 31 épiceries sociales et solidaires, des épiceries où les étudiants viennent chercher des aliments à tarification sociale. 31e a ouvert pendant la crise sanitaire. Et surtout, aujourd'hui, on en est à des étudiants qui sont pour 46% salariés, ce qui représente quand même une réelle problématique, puisque la plupart, c'est des emplois, ce qu'on appelle alimentaires, c'est-à-dire pour remplir le frigo. Qu'est-ce qu'on attend concrètement? On attend déjà que les politiques se recentrent au niveau de la jeunesse, où on soit réellement, donc au-delà d'être entendu, pris en compte, et qu'il y ait des réelles propositions, et après des mesures qui soient réellement appliquées et réellement suivies. Dans les propositions qu'on fait cette année, on voudrait l'allocation rentrée étudiante, qui se base sur l'allocation de rentrée scolaire. C'est exactement le même principe que les scolaires ont jusqu'à leurs 18 ans. Malheureusement, on n'en a plus quand on rentre à l'université. Et pourtant, on le voit, les frais de la rentrée restent conséquents. On souhaiterait que cette allocation de rentrée étudiante s'élève à 275 €, ce qui couvrirait à la fois les frais d'inscription et aussi la contribution de vie étudiante, c'est-à-dire ce qui est obligatoire pour l'entrée à l'université. Et ensuite, plus globalement, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait certains postes, comme le loyer, qui soient réellement pris en compte, que le logement étudiant et le logement jeune fassent partie des politiques de logement avec, par exemple, l'encadrement des zones tendues, qui soient beaucoup plus développées. Et en tout cas, on va retrouver les zones tendues au niveau des zones des sites universitaires. Du coup, ça devient urgent. Et par exemple, également, tout ce qui va être ouverture du parc HLM pour que les étudiants puissent intégrer ce parc social puisqu'ils font partie également de la population précaire aujourd'hui.
D'accord. Eh bien, en tout cas, on espère que les candidats à la présidentielle vont vous entendre. Merci infiniment, Agnella Lamnawar. Je rappelle que vous êtes vice-présidente en charge des affaires sociales à la FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes.
Le Mac de l'Imo, en partenariat avec Opinion Système, promis et bien ici.
On l'a entendu, bah voilà, ça coûte cher, hein, la rentrée, surtout pour les étudiants. Il y a un classement qui a été fait, le classement des villes étudiantes en fonction du coût de la vie, justement. Quelles sont les villes les plus chères, les moins chères? D'après l'étude annuelle publiée par l'UNEF, le coût de la vie a augmenté de 2,5% pour les étudiants, une statistique qui cache aussi des disparités selon les villes. Et c'est Kenza Braiga qui nous explique cela.
Le chiffre peut inquiéter à quelques jours de la rentrée universitaire. En 2021, selon le syndicat UNEF, le coût de la vie a augmenté de 2,5% pour les étudiants, alors même que ces derniers sont confrontés à une précarité plus importante, dans l'impossibilité de trouver un job étudiant ou de pouvoir compter sur le soutien financier des parents en raison de la crise sanitaire. En cause, selon le syndicat, la hausse des prix des transports en commun, plus 0,97% en moyenne, mais aussi la baisse des aides directes aux étudiants ces dernières années. Sous le quinquennat Macron, ces aides ont diminué de près de 40 euros par an et par étudiant par rapport à 2016, selon l'enquête de l'UNEF sur le coût de la vie étudiante en 2021. Sans surprise, Paris reste la ville la plus chère pour étudier d'après le classement 2021 des villes universitaires établi par l'UNEF. Un étudiant dans la capitale débourse en moyenne en 2021 1277 euros chaque mois pour vivre, beaucoup plus qu'à Nanterre, Créteil ou encore Saint-Denis. À noter que 9 des 10 villes les plus chères de France pour les étudiants sont en région parisienne, en raison principalement du coût des loyers et des transports en commun. En région, les villes les plus chères sont Nice, Lyon et Bordeaux. À l'inverse, Saint-Étienne, Poitiers et Limoges sont les villes les plus abordables pour s'installer et suivre des études supérieures. La capitale devance très largement les autres villes universitaires, même s'il faut noter une baisse du coût de la vie en 2021, due, selon l'UNEF, à l'encadrement des loyers, mis en place en juillet 2019 à Paris. Il a entraîné malgré tout une baisse de quasiment 4% des loyers cette année.
Le MAG de l'IMO, toute l'actualité immobilière sur Radio IMO.
C'était Elton John accompagné de Dua Lipa sur le morceau Cold Heart. Et c'est
what in English?
Yes, yes, of course. C'est vous, Nicolas Tarat, qui m'avez fait découvrir d'ailleurs cette musique.
Bah, merci. Écoutez, j'ai écouté ça toute la fin de l'été.
Et
c'est,
j'adore.
C'est sur mon téléphone, c'est dans mes écouteurs, c'est dans le métro, c'est quand je fais la cuisine, quand je fais le ménage. Donc c'est vraiment.
Ah, vous faites le ménage en plus.
Oui, c'est, on est normal, on est moderne, c'est normal, il faut partager. Mais oui, non, c'est mon coup de cœur de ce début d'année musicale.
C'est très agréable le matin en tout cas.
Ça réveille.
Le Mac de Limo continue en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
Toujours dans ce Mac de Limo, dans cette pré-rentrée du Mac de Limo, des sujets d'actu, des sujets brûlants d'un côté, hein, c'est vrai, Bérénice, il y a la forte reprise mondiale après la mise à l'arrêt de l'économie, hein, due à la pandémie mondiale qu'on connaît tous. De l'autre, il y a la désorganisation des chaînes d'approvisionnement. Bref, le secteur du bâtiment, par exemple, est confronté depuis plusieurs mois à une tension sur des matières premières cruciales, comme le bois, comme l'acier, le cuivre. Le bois, l'acier, le cuivre ou même le plastique. Depuis les années de la REF, Olivier Saleron, le président de la Fédération Française du Bâtiment, eh bien, il a fait le point sur ce début d'année. Il a répondu aux questions de Sylvain Lévy-Valency.
Il y a de l'optimisme chez nos artisans et les entrepreneurs. Maintenant, ça fait aujourd'hui 6 mois que l'on dit qu'on a un gros problème de matières premières. Donc d'abord une hausse des prix et un risque qui est aujourd'hui avéré de pénurie de matériaux.
Et d'où ça vient, ça, Olivier Saleron?
Dérèglement mondial, la Chine, le Sud-Est asiatique qui achète de l'acier, qui achète du bois, les États-Unis pendant un temps qui ont acheté le bois en Europe parce que c'était moins cher, etc., leur conflit avec le Canada, tout ça, etc. Et puis surtout, un dérèglement économique l'année dernière, avec des conteneurs qui n'étaient pas à leur place au niveau mondial, hein, là ça nous dépasse un tout petit peu.
C'est clair.
Évidemment. Mais une relance mondiale, c'est plus qu'une reprise. Là, c'est une relance mondiale exponentielle sur tous les travaux du bâtiment qu'il peut y avoir. Alors, je parle du bâtiment, ça fait 6 mois que j'en parle. Aujourd'hui, on voit bien que tout le monde est touché. Dans l'industrie, les semi-conducteurs, etc., etc. Mmh. Donc l'acier, les semi-conducteurs, oui. Le
l'industrie
bois,
automobile à l'arrêt, enfin, c'est un truc de fou.
Ça peut arriver parce qu'il va leur manquer peut-être 2-3 microprocesseurs.
On a déjà des usines en France qui se sont arrêtées de produire, mises au chômage partiel parce que pas de semi-conducteurs pour livrer les véhicules.
Voilà. Ben, nous, depuis le 3 février de cette année, notre BA Actualité, on a lancé une alerte auprès du gouvernement. On a été écouté, entendu, parce que c'est vrai qu'il y a eu une cellule de crise qui a été montée par Bruno Le Maire, Emmanuel Wargon, Alain Grise, etc. Donc c'est plutôt bien. Maintenant, je crois qu'ils attendent un petit peu la catastrophe, sachant que déjà, une enquête interne, 15% de nos artisans et entrepreneurs ont eu un problème d'approvisionnement, de délai ou de pénurie de matériaux, donc ont soit arrêté, en tout cas se sont débrouillés pour reprendre un chantier ou alors voilà changer de d'établissement pour certains de leurs salariés, ce qui veut dire que ça y est, aujourd'hui c'est avéré, on commence à avoir des problèmes de continuité de chantier et là c'est plus grave.
Est-ce que l'État peut faire quelque chose?
L'État
est-ce que l'État lui aussi n'est pas placé devant un
l'État, donc le médiateur de l'État, M. Pelouzet, et ses équipes ont bien bossé au niveau de nos fournisseurs, des producteurs, des distributeurs, justement, pour essayer d'étaler tout ça et de voir aussi qu'il n'y ait pas d'effet d'aubaine chez certains, hein, parce que, évidemment, c'est ce qu'il y a eu. On parle d'augmentation, quand même, qui peuvent aller jusqu'à 50%, ou alors multiplier le prix par 2 et par 3 sur certains produits du bois de construction. Maintenant, au niveau européen, ben oui, la France va prendre l'Europe dans quelques mois au niveau de la présidence de l'Europe, donc il y a aussi peut-être des choses à faire. Et puis, je le dis, ce mot tabou qui est protectionnisme, on peut en employer un autre, hein, on trouver un autre, si on veut, mais en tout cas, c'est clair. Les Chinois nous pillent le bois,
alors,
les autres pays nous
Olivier,
pillent les matières premières.
Est-ce que ça met pas en relief, Olivier Saleron, les fragilités institutionnelles et le fait qu'aujourd'hui, à 90%, on est dépendant de la Chine, quoi. Voilà.
De la Chine.
C'est le cas des molécules, par exemple, pour les médicaments. C'est le cas de certains, certains semi-conducteurs. Est-ce que vous plaidez?
C'est pour ça que Jean Castex a.
Ouais. Est-ce que vous plaidez pour essayer de relocaliser, si l'on peut,
c'est ce qu'il faut
avec
faire.
La francophonie, avec les pays d'Europe?
Je crois que.
On est d'accord.
Bon, déjà, le problème était présent. Aujourd'hui, le Covid a accéléré tous les défauts que l'on pouvait avoir, économiques, les filières. Eh bien, j'espère que ce gouvernement a pris le tour par les cornes et a organisé déjà une consultation pour la filière bois,
bien sûr.
Amont et aval, pour savoir ce qui ne va pas.
Bien sûr,
on a assez de bois en France pour faire plus de 60% de nos besoins, et même peut-être un peu plus. Eh bien, arrêtons d'envoyer les fameux troncs, les fameux grumes à l'extérieur. Avant, ils revenaient déjà préfabriqués. Aujourd'hui, ils ne reviennent plus.
Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
Et bon réveil, hein, si vous vous réveillez, si vous aussi avez repris. Enfin, il y en a peut-être qui sont encore en vacances. Hein, parce
oui,
que...
et puis il y en a peut-être qui dorment encore. Ouais, en tout cas, ils écouteront en podcast cette émission du Mac de Limo. Mais bon réveil à vous qui nous écoutez en direct avec un sujet aujourd'hui, la crise afghane au cœur de cette fin d'été, la crise avec les États-Unis,
avec
la France.
Ce
qui s'est passé avec tous les drames que l'on connaît autour. Et un sujet qui vient s'ajouter, un angle en tout cas de cette actu sur Airbnb, hein, qui compte s'appuyer sur l'association Airbnb.org pour héberger gratuitement 20 000 réfugiés afghans dans le monde. On écoute d'ailleurs à ce sujet Kenza Braega qui nous explique un petit peu les tenants et les aboutissants de cette actualité.
Avec le retour au pouvoir des talibans, des dizaines de milliers d'Afghans tentent de fuir le pays. Les États-Unis, à eux seuls, ont déjà évacué 48 000 personnes, dont des Américains, depuis la mise en place d'un pont aérien le 14 août dernier. Face à cette crise humanitaire, la plateforme Airbnb a souhaité aider plusieurs milliers de réfugiés afghans en les aidant à trouver un hébergement temporaire et commencera à héberger gratuitement 20 000 réfugiés afghans dans le monde. C'est ce qu'a annoncé Brian Chesky, le cofondateur et patron du leader mondial de la location saisonnière. Cette initiative s'articulera autour de la plateforme Airbnb.org, une association à but non lucratif qui souhaite aider des personnes à partager un logement et des ressources en période de crise. Concrètement, la plateforme Airbnb.org recueille des dons et propose aux propriétaires de proposer leur logement pour des séjours gratuits. L'association s'appuie d'ailleurs sur deux anciens programmes d'aide développés par Airbnb, à savoir Open Homes et Logements d'urgence. Selon la plateforme, depuis 2012, de l'Australie à la France, plus de 100 000 hôtes ont proposé leur logement et aidé à fournir un hébergement à 75 000 personnes en situation d'urgence. Cette initiative s'articulera autour de la plateforme Airbnb.org, lancée en décembre 2020, qui est une association. Cette initiative s'articulera autour de la plateforme Airbnb.org, une association à but non lucratif qui souhaite aider des personnes à partager un logement et des ressources en période de crise. Concrètement, la plateforme Airbnb.org recueille des dons et propose aux propriétaires de proposer leur logement avec des séjours gratuits. L'association s'appuie également sur deux anciens programmes d'aide développés par Airbnb, à savoir Open Homes et Logements d'urgence. Selon la plateforme, depuis 2012, de l'Australie à la France, plus de 100 000 hôtes ont proposé leur logement et aidé à fournir un hébergement à 75 000 personnes en situation d'urgence.
Le Mac de Limo revient avec Opinion Système, promis et bien ici.
Ah, c'est vous ? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé combien de temps prend le processus de sélection des futurs locataires ? Avec EasyRent, ça vous prendra 30 secondes. C'est votre nouvelle solution de collecte et d'analyse des dossiers locataires. Écoutez l'émission Solutions immobilières 3.0 pour en découvrir davantage. Vous n'êtes plus qu'à un clic du locataire rêvé. Rendez-vous sur easyrent.fr.
Grand sage, j'aimerais que mon agence immobilière soit plus visible par les particuliers.
Je sais.
Mais alors, que dois-je faire ?
Ma tablette, ma vision me dit meilleurs agents.
Meilleurs agents ?
Je sais.
Mais alors, qu'est-ce que vous ne savez pas, grand sage ?
Je ne sais pas ce que vous attendez pour être présent sur les 3 sites immobiliers les plus visités par les vendeurs en France.
Moi non plus.
Je le savais. Eh oui, les agents les plus sages ont choisi Expérience Vendeur, une offre unique pour se rendre visible simultanément sur Meilleurs Agents, Se Loger et Logique Immo. Découvrez-la sur pro.meilleursagents.com. Meilleurs Agents, numéro 1 de l'estimation immobilière et des comparateurs d'agences.
Le Mac de Limo continue en partenariat avec Opinion Système, promis et bien ici.
C'est le sujet de cette rentrée, la transition écologique, la neutralité carbone d'ici 2050, si on en croit l'accord de Paris. On le sait, les acteurs de l'immobilier sont désormais tous concernés. Vincent Briand, par exemple, président et cofondateur de DeepKey, nous explique comment son entreprise les accompagne grâce à la data intelligence dans leur stratégie ESG. À votre micro, Bérénice Deville.
J'ai le plaisir de recevoir Vincent Briand. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes président et cofondateur de DeepKey. Vincent Briand, bonjour. DeepKey est une entreprise... Expliquez-nous ce que vous faites. Quel est le métier de DeepKey ?
DeepKey est une entreprise innovante qui accélère la transition vers un monde net zéro dans l'immobilier en utilisant l'ESG et la data intelligence.
D'accord, donc vous accompagnez les entreprises. Comment en fait ?
Concrètement, nous collectons avec notre plateforme logicielle les données de nos clients sur l'ensemble de leur patrimoine, que nous analysons automatiquement et nous les aidons à savoir quels sont les bâtiments qui sont en risque d'un point de vue changement climatique ou d'un point de vue performance ESG. Tout ça pour bien sûr éviter de perdre de la valeur et appliquer le fameux brown discounting sur la valeur d'achat ou de vente.
Donc vous les accompagnez dans leur transition zéro carbone. Et alors justement, perte de la valeur, c'est le cas vraiment ? Quand on ne fait pas cette transition ?
Il y a de nombreuses études qui sont sorties récemment qui montrent qu'il y a parfois un petit peu de green value sur des bâtiments performants, mais il y a surtout de la perte de valeur, notamment sur les montants des investissements à mettre en œuvre pour remettre à un niveau de performance acceptable les bâtiments qui ne le sont pas.
D'accord. Alors aujourd'hui, vous avez des clients en France, essentiellement en Europe. J'imagine que vous en avez de plus en plus depuis la crise liée au coronavirus.
Oui, nous avons aujourd'hui 300 clients, des propriétaires immobiliers, mais aussi des occupants ou des gestionnaires de patrimoine immobilier. Et c'est vrai que depuis la crise de la Covid, due à la prise de conscience, mais aussi à la pression réglementaire et à la volonté des investisseurs internationaux, on a vu notre activité plus que doubler depuis un an et demi.
Oui, parce qu'il y a eu alors plusieurs lois. Ça a été d'ailleurs validé par le Conseil constitutionnel, hein, notamment les passoires énergétiques ne pourront plus être mises en location à partir du 1er janvier 2028 en fonction de leur étiquette évidemment. Il y a aussi le dispositif éco-énergie tertiaire. Tout ça, du coup, j'imagine, a fait augmenter votre activité.
Absolument, oui. La principale bénéfice pour l'immobilier de cette nouvelle loi climat et résilience, vous l'avez dit, hein, c'est l'éradication des passoires thermiques qui va se faire par étapes. Mais la France n'avait pas à rougir en matière de réglementation environnementale appliquée à l'immobilier, puisque notamment, vous l'avez cité, il y a des réglementations extrêmement ambitieuses comme le dispositif éco-énergie tertiaire, ex-décret tertiaire, qui ambitionne de pousser tous les bâtiments de plus de 1000 m² à réduire leur consommation énergétique de 60% d'ici 2050, c'est absolument énorme et c'est un élan extrêmement fort pour le marché.
Alors oui, vous le dites, c'est énorme, mais est-ce que c'est vraiment réalisable ?
Oui, nous avons réalisé une simulation sur 3000 bâtiments représentatifs de bureaux en cette année et nous avons observé que un tiers des bâtiments respectaient déjà ces réglementations et que deux tiers ne les respectaient pas et qu'il faudrait d'ici 2030, qui est la première étape, moins 40%, eh bien mettre en place suffisamment d'actions pour y arriver. Mais oui, c'est tout à fait faisable.
Et alors, par exemple, un de vos clients, combien de temps ça prend pour... j'imagine que ça dépend des clients, mais en moyenne, combien de temps ça prend pour accompagner ce client dans cette transition écologique et environnementale?
Oui, les clients que nous accompagnons ont en général plusieurs dizaines, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de bâtiments. Et évidemment, ça dépend de la taille de leur parc et aussi de si le parc est plutôt en France ou plutôt à l'international. Mais en général, ça prend entre 6 et 12 mois pour déployer une telle plateforme et les accompagner dans leur politique ESG.
Donc au final, c'est assez rapide.
C'est le bénéfice des nouvelles technologies informatiques, c'est que vous n'avez pas besoin de vous déplacer dans chacun des bâtiments pour récupérer l'information, analyser et comprendre comment fonctionne le bâtiment. Il suffit d'accéder à l'information qui, pour grande partie, est déjà digitalisée. Et ça se fait effectivement très bien à distance. Pour vous donner un exemple, nous avons des bureaux dans 5 pays d'Europe, alors que nous avons des activités dans plus de 38 pays dans le monde.
D'accord. Et est-ce qu'il y a des clients, justement, à qui ça fait un petit peu peur, cette data intelligence ?
La question de la data et de la protection de la data, c'est toujours une question.
Ouais,
après, il suffit de montrer, notamment avec la cybersécurité. Après, il suffit premièrement de montrer des références clients qui ont vu que ça pouvait être géré de manière extrêmement professionnelle. Et puis, c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place, il y a plus de 2 ans, une certification ISO 27001 pour justement mettre en place toutes les bonnes pratiques de sécurité informatique et puis pour rassurer nos clients.
Très bien. Eh bien, merci infiniment, Vincent Briand. Je rappelle que vous êtes président et cofondateur de DeepKey.
Le Mac de l'Immo, toute l'actualité immobilière sur Radio Immo. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted here. I feel like you can't feel the way I feel. I'll be fucked up if you can't be right.
told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. When I'm away from you, I miss your touch. You're the reason I believe in love. Even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay, yeah. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change. Even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay, yeah. Oh, I need you to stay.
Et c'était Stay, très agréable hein, cette petite musique le matin. C'est The Kid Laroi, et j'espère que je l'ai bien dit, et Justin Bieber. Ah bon, bah tant mieux.
C'est mon deuxième coup de cœur hein, de l'été. Oh, oui, disons-le, disons les choses clairement.
Et c'est notre réalisateur Jason qui aime beaucoup cette musique et qui nous a dit d'ailleurs que
c'est
c'était Charlie Pousse, oui voilà, qu'il avait composé entre autres.
C'est pas facile à dire.
Ouais, c'est vrai. Et je vois Baptiste, l'autre réalisateur qui fait un pouce. qui aime bien aussi. En tout cas, voilà. On continue. Bon réveil à tous. On est dans le Mac de Limo ensemble.
Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System. Promis, et bien ici.
Et le marché immobilier n'a pas connu de vacances, en fait. Nous, on revient, on est tout bronzé, mais c'est
la pas rentrée,
le cas de tout le monde.
Sauf pour le marché immobilier,
c'est
vrai.
Et les prix augmentent, alors on le voit, hein, mais pour combien de temps? C'est la question qu'on se pose. Les prix grimpent toujours, un dynamisme qui ne va certainement pas durer. Hein. Bon, après, on ne détient pas la vérité ni l'avenir. Bah,
la question, en tout cas, c'est celle-là, c'est de savoir si c'est un simple phénomène passager ou un véritable mouvement de fond.
Et c'est Jody Leclerc qui répond à cette question.
Le dynamisme du marché immobilier ne connaît aucun ralentissement. La preuve, en juin dernier, la Banque de France enregistre 1,13% pour un taux moyen. Toujours selon ses calculs, l'épargne des Français plafonne à 142 milliards d'euros. Que font-ils de toutes ces économies? Ils achètent des biens. On ne le dira jamais assez, la pierre demeure la valeur refuge par excellence. La demande augmente, les prix aussi. Regardez cette étude Meilleures Agences sur le prix du mètre carré en France. Figurez-vous qu'à Paris, ce mètre carré se négocie à 10 451 euros. C'est 0,3% de plus qu'il y a un mois. Ça vous semble énorme? Pourtant, Paris est loin d'être la ville où les prix flambent le plus. Au Mans, le mètre carré se négocie à 1 853 euros. On frôle plus 1% en à peine un mois. Mais cette hausse risque de s'arrêter. Et pour quelle raison? Parce que vous le savez, le diagnostic de performance énergétique, DPE, va être de plus en plus scruté par les acheteurs. Les obligations que comporte ce nouveau diagnostic freineront certains achats. Qu'on se le dise, les transactions se joueront plus que jamais à la valeur verte d'un bien.
Le Mac de l'Immo, la start-up Immo, en partenariat avec Bien Ici, Jean-Michel Royot.
Et on est toujours dans la pré-rentrée du Mac de Limo. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Dans quelques instants, on va réécouter l'émission qu'on avait faite avec Pierre Otus en avril dernier. Pierre Otus qui est le directeur général de l'INPI. Et là, c'est Jean-Michel Royot, notre très cher Jean-Michel Royot, qui a invité une cofondatrice de start-up, hein, puisque c'est le moment de start-up IMO avec Bien Ici. Et cette cofondatrice, c'est Virginie Perret, Nicolas.
Oui, puis le nom de la start-up, c'est Coolock, sur la colocation. Ça tombe bien, c'est la rentrée. Les étudiants cherchent pour certains encore des appartements. Et c'est vrai que la coloc, alors je ne sais pas vous, Bérénice, mais moi j'ai adoré.
C'est vrai, moi aussi. Alors j'ai eu une moins
mauvaise
bonne.
Mauvaise expérience, voilà. Moins bonne.
Et c'est une très très bonne qui a duré d'ailleurs 2-3 ans. Et j'étais ravie.
Non, mais c'est vrai. Moi d'ailleurs, pour l'anecdote, alors je raconte ma vie, on est le matin, on est sur Maguimo.
Ah, mais oui!
Non, on y est, c'est le Mac de Limo, c'est le moment, c'est un moment de radio. Et en fait, l'idée, ouais, c'est que j'ai arrêté d'être étudiant et c'est à partir de ce moment-là que j'ai fait de la coloc.
Et ça s'est bien passé.
Et ça s'est très bien placé. Vous aujourd'hui, c'est des super potes.
Ah ouais, des super potes.
Ouais, ouais. Donc non, moi, je plaiderai toujours pour la colocation.
Bon, eh bien voilà. On écoute. On va écouter justement Virginie Perret qui nous parle de coloc. Apparemment, c'est un réseau de colocataires par affinité. Donc c'est assez intéressant si vous cherchez justement une coloc, si vous n'avez pas encore trouvé de logement pour la rentrée. Donc voilà, ça peut vous intéresser.
Pour que ça se passe bien. Une nouvelle vision, finalement, de la colocation.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi aujourd'hui d'accueillir Virginie Perret. Bonjour Virginie.
Bonjour Jean-Michel.
Et donc Virginie va nous présenter sa petite et belle start-up qui s'appelle le Coloc, qui traite d'un sujet qui est un sujet d'actualité et de saison à l'heure actuelle, au mois de septembre, puisque c'est Coloc, comme son nom l'indique, va nous parler de colocation et de co-living. Virginie, vous pouvez nous dire quelle est la promesse de Coloc ?
Oui, Jean-Michel. Alors, Coloc, c'est la communauté de confiance des bailleurs et des colocataires du co-living et de la colocation.
Très bien. Donc, une fois qu'on a dit ça, évidemment, on veut en savoir beaucoup plus. Donc, la petite tradition de cette petite rubrique, c'est de donner une minute. Donc, on va vous donner une minute pour en savoir plus. Allez, top chrono.
Alors, oui, Coloc, c'est le tiers de confiance du co-living et de la colocation, qui est un phénomène récent, comme vous l'avez dit, qui intéresse beaucoup les locataires, mais aussi les bailleurs, pour d'autres raisons, chacun de son côté. Mais en fait, c'est pas si simple de matcher, de vivre ensemble, et c'est pas si simple d'intermédier cette relation pour les bailleurs avec différents locataires sur un mode juridique et assurantiel qui est tout nouveau. Et donc, Coloc, en fait, c'est une application qui a une communauté derrière, 60 000 colocataires, 1500 bailleurs partout en France, et qui, en un clic, va permettre aux locataires de matcher avec ses colocataires, donc de former un équipage, et côté bailleur, en un clic, de contractualiser, même à distance, avec ses locataires, son bail conforme à ce mode de vie, à la réglementation loi Allure, et à la partie assurantielle qui ensuite va lui permettre de vivre sereinement pendant toute la durée de sa mise en location, sur toute la durée de vie de son patrimoine.
C'est parfait. Hein. Alors là, une minute exceptionnelle. Donc, 60 000 locataires, combien de bailleurs ?
1500.
C'est quel type de bailleurs ?
Alors, c'est beaucoup de bailleurs particuliers, hein, très investis dans ce mode d'investissement très profitable, et très investis aussi souvent dans l'impact social, sociétal que ça représente. On a aussi des agents immobiliers qui s'y mettent parce qu'il y a beaucoup de demandes, donc ils se retournent vers nous, des marques de co-living, effectivement, qui font appel au service de Coloc de sa communauté sur la simplification et la facilitation de cette entremise. Et puis, des gestionnaires de patrimoine aussi qui conseillent à leurs clients d'investir dans ce type de mise en de logement.
Et le profil des colocataires, alors c'est du 20-25 ans ou
pas du tout, Jean-Michel.
Vous acceptez les seniors comme moi, Virginie ?
Totalement, nous avons beaucoup de seniors qui se réunissent, alors moins pendant la période de Covid, hein, de crise sanitaire, mais la moyenne d'âge au Coloc est de 38 ans. Elle a un petit peu baissé, là, en ce moment, on a un peu plus, oui, c'est des jeunes, un peu plus d'étudiants, 32 ans. Mais en fait, ce qu'on explique, c'est qu'il y a une mixité d'âge aussi, et que c'est un style de vie qui correspond et qui a beaucoup d'attentes pour beaucoup de types de populations. Donc, on n'est pas du tout tourné que étudiants, au contraire. Les gens se choisissent entre eux, et on a une moyenne d'âge qui est, comme je vous le disais, 38 ans.
Et cette start-up a été créée quand ?
Fin 2018, pour pas dire début 2019, avec, on va dire, une mise entre parenthèses un peu sur la période de la crise sanitaire.
Là, ça redémarre à fond. Donc là, c'est la saison, beaucoup de jeunes cherchent à se loger. Donc j'imagine que vous êtes très sollicité avec les étudiants, les jeunes actifs.
Oui, et puis la crise sanitaire a développé encore plus cette envie chez les gens de vivre ensemble et de vivre une expérience à travers le logement et pas seulement
de se loger. Ça, vous y tenez beaucoup. Hein.
Oui.
On ne cherche pas un logement, on cherche une expérience.
Exactement.
Donc, écoutez, c'est très tentant. Qui vous fait confiance ? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms ?
Alors, gens de confiance, d'abord. Alors, on va les remercier. Gens de confiance nous a fait confiance. Nous sommes pour eux un des partenaires sur ce segment. Enfin, nous sommes leurs partenaires sur le segment de la colocation et du co-living. Nexity qui nous a accéléré, Alliance qui nous a accéléré également, puisque nous sommes à la fois courtiers et agents immobiliers. On a double casquette sur notre start-up et sur l'app. Et puis beaucoup de clients, Omise, La Casa, pour ne citer que.
Très bien. Et donc du coup, on va se dire qu'on a envie de vous contacter. Alors comment on fait pour vous contacter, pour entrer en relation avec cette belle start-up ?
Sur coolloc.com.
Sur coolloc.com. J'imagine aussi qu'on peut contacter Virginie sur LinkedIn. C'est
toujours
comme ça qu'on est rentré en relation.
Tout à fait.
Ok, parfait. Écoutez, moi, ça me paraît très, très bien. On va souhaiter bon vent et plein de succès à votre start-up et à sa fondatrice, Virginie. Merci de votre présence et de cette belle présentation. Et à très bientôt.
Merci, Jean-Michel.
Le MAC de l'IMO, toute l'actualité immobilière sur Radio IMO.
si bien du mal. Très bonne musique que encore vous m'avez fait découvrir, Nicolas.
C'était au moment. Par contre, là, c'est une musique un peu plus ancienne. C'était au moment du confinement. Je l'ai beaucoup écouté. D'ailleurs, d'accord. Il a fait son clip. Il a tourné lui-même avec son téléphone à ce moment-là, au moment du premier confinement, au mois de mars. Un artiste vraiment autodidacte. Hein. Et ce Hervé, moi, j'aime beaucoup. Voilà, j'ai découvert un petit peu par hasard.
Pendant le confinement.
Pendant le confinement. Et j'adorerais le voir en concert.
Et il vient d'où, ce Hervé? C'est un Parisien, non?
Je vais chercher ça sur le site qu'on ne nommera pas, mais sur Internet. Non, je crois qu'il vient des Yvelines, effectivement.
D'accord. Bon, bah, je vais le mettre sur ma plateforme
d'écoute streaming musical.
Exactement.
Qu'on ne nommera pas non plus.
Oh, on peut la nommer.
C'est vrai. Vous retrouvez d'ailleurs les podcasts.
Oui, c'est
Radio
vrai.
Imo sur cette plateforme sur Deezer, et sur d'autres plateformes, Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts, tous les agrégateurs de podcasts.